Le passage se trouve dans Jean 11 et je vais le lire. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement, il dit à ses disciples, « Retournons en Juda. » Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui. » Alors Thomas, celui qu'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi et nous mourrons avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et chez Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie est assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » répondit-elle, « il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, » répondit-elle. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le maître est là, il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir. Ils la suivirent. Ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement. Et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus pleura. Et les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait ?» Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'enfuit au tombeau. C'était une grotte dont une pierre recouvrait toute l'entrée. Jésus dit alors, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il doit sentir. Il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, « Déliez-le et laissez-le aller. » Une histoire très connue, une histoire vraie, dans la trajectoire de Jésus sur la terre. Lazare est vraiment mort et il est ressuscité. Il s'agit d'une mort physique, d'une résurrection physique. Ce n'est pas la résurrection quelque temps plus tard du Christ. Ce n'est pas la même. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Lazare est ressuscité, mais il mourra de nouveau physiquement. On ne sait pas quand, mais il mourra de nouveau. Ce n'est pas le cas du Christ qui va venir à la résurrection autre. Béthanie est un petit village. Pour ceux qui ont déjà visité les lieux d'Israël, ça se trouve juste à 3 km, même pas 3 km de Jérusalem. Donc ce n'est pas si loin que ça. Et c'est un lieu où Jésus allait souvent. D'ailleurs, j'ai dénombré, je n'ai pas tout pu compter, mais il est allé au moins 7 fois pendant son ministère, où il allait dans cette maison. Il est dit, il allait passer la nuit à Béthanie, il allait à Béthanie voir ses amis, ou au passage, il était à Béthanie, etc. Nous, on retient peut-être que les événements qui se sont passés à Béthanie, parce que ben, on est ainsi fait, c'est qu'il doit se passer quelque chose pour qu'on peut-être on retienne dans notre mémoire. Mais il semble que Jésus allait souvent. Il est chez des amis. Et moi, personnellement, je suis vraiment touchée par cette belle part que Jésus donne à l'amitié, au partage, à la tendresse. Je me dis qu'il prenait le temps de cela. J'aime entendre cela. Ça me le rend tellement proche. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser, dans ma culture actuelle, occidentale, en 2015, de me dire, mais quand même, il n'avait que 3 ans de ministère. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas optimisé là un petit peu le temps en faisant le maximum de miracles, le maximum de prédications, le maximum de ceci? Vous savez, c'est notre culture, hein? Maximum, toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. Jésus savait, il n'avait que 3 ans. Peut-être qu'on doit entendre quelque chose, nous, ici et aujourd'hui, en 2015, c'est qu'il y a un rythme. Il y a un rythme pour tout le monde. Et je dirais même, il y a un juste rythme qui nous appartient à chacun de trouver. Et Jésus avait ce juste rythme, puisque quelque temps plus tard, il se trouvera à la croix. Et il dira, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'en avait pas rajouté, il n'en avait pas soustrait. C'était le tout accompli, selon son juste rythme. C'est pourquoi il pouvait vivre l'amitié, la tendresse, la relation dans cette paix et dans ce repos, sans se dire « Ah, je devrais peut-être quand même aller là-bas, il y a quand même tellement de malades. » Non, il le vivait dans un repos complet du juste rythme qui était le sien. J'aime aussi particulièrement ce récit, comme d'autres, parce qu'il est personnalisé. Voyez combien de fois les prénoms sont mentionnés. Marie, Marthe, Lazare, Jésus. On connaît Marthe par son dynamisme, par son enthousiasme. Elle guette toujours l'arrivée de Jésus. Elle va à sa rencontre. On connaît aussi Marie. D'ailleurs, le texte nous précise, c'est celle qui avait oint les pieds du Seigneur dans un précédent épisode, qui était là aux pieds du Seigneur et qui oignait ses pieds. Un acte prophétique, dira le Seigneur lui-même. Un acte d'amour aussi. C'était cette Marie-là. Et il y a Lazare, qu'on connaît un peu moins. C'est une fratrie, une famille. Ils sont frères et sœurs. Et c'est au sein même de cette fratrie qu'un jour, le drame frappe. Lazare est malade. On ne sait pas de quelle maladie il souffrait, mais il meurt. La fratrie est amputée. Bien sûr, ça me touche, parce que ma propre fratrie a été touchée il y a quelque temps seulement. C'est un drame, une douleur qu'on ne peut pas expliquer. C'est un chemin difficile. Et pour les uns et pour les autres, nous passons tous par le deuil. Et quand c'est une mort prématurée, c'est quelque chose d'ardu. Cette fratrie-là passe par cette amputation aussi. Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marie, Jésus aimait Lazare. Dans l'état où il se trouve au moment où il arrive. Jésus aimait Marthe dans l'instant où elle était à ce moment-là, à sa rencontre, dans le dialogue. Et il aimait Marie dans son chagrin. Ce n'était pas la Marie, là, prophétique. C'était la Marie effondré, dans une douleur terrible, pleurant, se lamentant, dit même le texte. Jésus aimait Marie. Et Jésus aime Lazare, qui lui est déjà au tombeau. Et c'est tellement personnalisé. Ça me parle de comment Jésus m'aime dans l'état où je suis aujourd'hui. Pas seulement quand j'ai des beaux projets et une foi immense, mais aussi dans mes chagrins, dans mes douleurs, dans mon enthousiasme, dans mes joies, dans mes accomplissements, et lorsque je suis au tombeau, dans mes tombeaux intérieurs, lorsque, voilà, je ne me sens plus vivante ou juste vivotant, juste clignotant quelque chose. Nos états d'être sont importants pour le Seigneur. Il ne nous demandera jamais de nous changer avant de venir dans sa présence, à aucun moment. En tout cas, le texte ne le dit pas. Et si nous l'entendons des fois de cette manière-là, en nous culpabilisant ou en nous jugeant par notre juge intérieur, c'est peut-être que ça remonte à quelque chose d'autre. On peut, mes amis, se présenter au Seigneur avec nos questions. On peut, sachant qu'il nous aime tellement individuellement, personnellement. Et je sais qu'on entend ça souvent et qu'on a entendu ça et qu'on y croit. Je le sais. Mais entendons-le comme la première fois. Il aimait Marthe. Il aimait Marie. Il aimait Lazare. Il m'aime personnellement, individuellement. Et à la lumière de cet amour, à la lumière de cette connaissance, de cet amour agapé, eh bien, lorsque je me trouve au tombeau, lorsque je me trouve dans mes désolations, je peux alors me présenter avec mes questionnements. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui empêche ma liberté? Qu'est-ce qui empêche la lumière du Seigneur, ta lumière, d'entrer? Je ne serai pas jugée, je serai accueillie. Et nous le voyons. C'est pourquoi les textes de la Bible, et ce texte aujourd'hui, est tellement vivant pour nous. Ce n'est pas une vieille histoire qui se passe il y a 2000 ans et plus. C'est une histoire qui m'appartient à moi, dans mes états d'être, dans mes états d'âme, dans mes effondrements comme dans mes grandeurs, et que je peux entendre, accueillir et recevoir comme une parole rafraîchie dans la situation dans laquelle je me trouve, peu importe, quelle qu'elle soit. Jésus dira, cette maladie n'est pas mortelle. Dès qu'il entend la nouvelle que son ami Lazare, d'ailleurs quelqu'un vient lui dire, ton ami Lazare est malade. Et tout de suite, Jésus dira, cette maladie n'est pas mortelle. Mais oui, entendons la bonne nouvelle, il n'y a rien de qui soit si pire que ça, parce que même les morts peuvent ressusciter. Il n'y a rien pour le Christ, pour le Seigneur, qui puisse être trop grand, trop impossible, trop sans issue. Le message qu'il donne, ce n'est pas qu'il va dire « je vais prendre une baguette magique et te faire vite un petit joli petit miracle ». Ce n'est pas ça que j'entends personnellement. Mais j'entends que si j'ai pris une voie sans issue, c'est ça les chemins de mort, eh bien il y aura une issue. Il y aura une issue, une solution. Je ne sais pas laquelle. Cette maladie n'est pas mortelle. Il y a une issue. Il y a quelque chose qui va se passer, qui peut s'ouvrir. Et c'est cela que nous voulons voir, parce que ça a été le cas pour Lazare. Lui, c'était une mort physique. Nous parlons de la mort symbolique, c'est-à-dire tous les deuils que tout le monde, dans toutes nos vies respectives, nous devons faire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je ne parle pas seulement des êtres chers qui nous quittent, mais je parle, peut-être qu'on doit faire le deuil d'une situation professionnelle. Peut-être je dois faire le deuil de ma santé, le deuil de ma jeunesse, le deuil, mettez ce que vous voulez là-dedans, le deuil de capacités que je n'ai pas ou que je n'ai plus ou que j'ai eues, et que, etc., etc. Tous ces deuils sont à amener à ce même niveau. Lorsqu'il apprend la nouvelle, et le texte nous le dit encore, Jésus attend, il ne bouge pas. Pourtant, c'est son ami. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous entendez que votre ami est à l'article de la mort? Parce que lorsqu'on va lui dire que Lazare est très malade, en réalité, on est en train de lui dire, il y en a pour quelques heures. C'est ça qu'on est en train de dire à Jésus. Dans le texte original, ça ressort un petit peu mieux, parce que le mot « malade » est plus fort que juste la maladie de laquelle on se remet. Donc, il est vraiment, c'est ses dernières heures. Vous savez, c'est ces nouvelles, quand on a encore la chance de pouvoir dire au revoir à un être cher, qui viennent et qu'on sait que, voilà, on va devoir dire cet au revoir, cet adieu déchirant. C'est là que ce messager vient dire à Jésus, ton ami Lazare, il va mourir, c'est fini pour lui. Et Jésus attend. Et là aussi, je me suis dit, mais c'est un ami quand même, il l'aime, c'est mentionné plusieurs fois dans le texte. Pourquoi est-ce qu'il attend Jésus? Et ma question est toujours de me dire, certainement il nous dit quelque chose. Certainement qu'il y a quelque chose que pour moi aujourd'hui, qui lit ce texte avec le recul nécessaire, je dois entendre quelque chose de cette attente. Et j'entends que parfois il faut aller jusqu'au bout de nos chemins, au bout du bout. Vous savez, quand on dit « Ah oui, il a touché le fond », c'est ça, c'est sans issue. Et Dieu le permet. Parce que nous sommes libres. Et parfois, Dieu permet d'aller jusqu'au bout du bout de notre chemin sans issue pour réaliser, pour voir, pour qu'on se rende compte de nous-mêmes. C'est ça que me parle cette attente. Elle me parle aussi d'une autre chose qui est aussi très contemporaine pour nous, mais je pense qu'elle a été contemporaine pour tout le monde. C'est qu'on aimerait tellement capter un fruit tout de suite. Seigneur, guéris-moi. Boum, je suis guérie. Magnifique. Ça arrive. Ça peut arriver. Moi, je crois à ça. Mais je ne crois pas que c'est la généralité. Il y a un chemin, bien souvent. quatre jours symboliques que Jésus va attendre. 4 jours, et pour ceux qui sont attachés à la typologie biblique, quand j'étais à l'école biblique, on nous faisait beaucoup, on avait un professeur qui était beaucoup dans la typologie. Vous savez qu'en hébreu, dans la langue hébraïque, les chiffres ont une signification vraie de sens. Eh bien, le chiffre 4 peut représenter les 4 points cardinaux, donc ça veut dire que ça représente l'étendue, ça peut représenter l'ordre. Il y a peut-être de l'ordre à mettre. Ça représente aussi la construction. Parce que les tables, hein, on a 4 pieds pour que ça soit bien stable, par exemple. Et toute autre chose aussi, il y a beaucoup de significations, vous pourrez le voir par vous-même. Et donc, il y a ces 4 jours symboliques. Pour nous, bien sûr, c'est plus que 4 jours, ou moins, mais c'est symbolique, c'est un chemin. C'est un chemin qui revient à la vie. Tu as été jusqu'au bout de ton issue, du chemin sans issue, chemin de mort. Eh bien, parfois, il faut faire tout le chemin en arrière, c'est-à-dire il y a toutes les conséquences, pour prendre un autre chemin. Et parfois, tout simplement, il y a une bifurcation qu'on peut prendre pour se remettre sur le chemin qui va mener à la vie. Et tout cela est un processus. Ça ne nous parle pas d'autre chose que d'attendre que le fruit, il doit se cueillir à maturité. Et de vouloir un fruit rapide, on est bien humain. C'est légitime. Il n'y a rien de faux là-dedans. Mais un fruit rapide ne permettrait pas un apprentissage ou vraiment de cueillir ce que Dieu veut nous dire. C'est pour ça que lorsque nous nous trouvons dans des situations, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Ça peut être un grand drame, comme c'est le cas aujourd'hui, que nous donne le texte, mais ça peut être des petites choses. La prière à faire, la demande à faire, c'est « Seigneur, qu'as-tu à me dire ?» Avant, délivre-moi vite. Fais que ça n'a pas existé. Ça, il ne fera jamais. Montre-moi quel est le chemin sur lequel je suis. Et mets-moi sur le chemin, dira David, sur les chemins de la vérité, sur les chemins de la vie. Et je peux le faire en considération de ce que j'entends. Au bout de ces 4 jours, nous le voyons. Pas seulement Lazare, mais Marie et Marthe auront fait un chemin, elles aussi. Vous voyez, ça ne nous concerne pas nous seulement, ça concerne aussi notre entourage. Marthe aura fait un chemin, et lorsque le Christ, elle va à la rencontre du Christ, de Jésus qui venait, elle va pouvoir avoir cette révélation extraordinaire, « Mais tu es le Fils de Dieu !» Et pour nous, ça nous semble logique. Mais dans l'époque, pas du tout. C'est des Juifs. Jésus n'est pas reconnu en tant que Messie, nous le savons. Et il n'y a eu que 2 ou 3 personnes qui ont eu cette révélation profonde, ce chemin de révélation, et qui ont pu dire à Jésus de son vivant, « Tu es le Fils de Dieu, celui que nous attendions, celui qui a été envoyé. » C'est extraordinaire. Pierre l'a eu et le centurion à la croix. Vous vous rappelez, lorsque Jésus mourra, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qui a fait que... Parce que les révélations, c'est comme ça, ce n'est pas des processus 1, 2, 3, non. C'est le cœur ouvert qui reçoit. Et ce centurion à la croix dira, « Ah, mais véritablement, il est le Fils de Dieu. » C'est une révélation. Ces 4 jours, Marthe aura eu pour cueillir ce fruit-là. Et peut-être, hein, je ne sais pas, que s'il n'y avait pas eu ces 4 jours, elle ne l'aurait pas eu. Ça valait la peine de cueillir ce fruit-là. Et Jésus engage le dialogue avec elle, est dans le dialogue avec Marthe. Marie, elle aura eu le temps de la consolation. À plusieurs reprises, le texte nous dit, beaucoup de gens étaient autour pour la consoler. Beaucoup étaient là pour consoler Marie. Et nous voyons une chose assez parlante. lorsque Jésus va rencontrer Marie aussi, il ne va pas la délivrer de son chagrin. Il va pleurer avec elle. Jésus pleure. Il ne se réjouit jamais du malheur. Jamais. Et si nous avons parfois ces petits... Oui. Nous devons le savoir, être sûrs, confiants dans la foi, que jamais Dieu ne se réjouit du malheur. Jamais. Et Jésus pleure. Un verset bouleversant. Il tressaillit, nous dit le texte, et c'est très fort hein, pour, dans le texte. Nous, peut-être dans le français, on ne le sent pas la même chose. C'est extrêmement fort. Il est bouleversé dans ses entrailles, nous, ça veut dire, vraiment. Vous savez, ces choses qui nous retournent, vraiment. Jésus tressaillit profondément, et ensuite le verset le plus court de la Bible que tout le monde connaît, Jésus pleura. Jésus pleure. Avec Marie, avec les Juifs qui sont là, de la perte de cet ami. Et là aussi, on pourrait se dire, oui, mais bon, pourtant Jésus savait qu'il allait le ressusciter. Il savait que, voilà, il allait revenir à la vie. Comment concilier les deux choses? Est-ce que Jésus n'était pas authentique devant ses pleurs? Eh bien, moi, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, même si on le sait. Je me la répète. Je vous le répète, Jésus était homme, complètement homme. C'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre entièrement, acceptons-le. Complètement homme, complètement Dieu. Et face à ce tombeau, face aux larmes de Marie qui a perdu son frère, Jésus est un homme qui pleure un ami très cher. Véritablement, véritablement. Dans tout ce que cela comporte. Lorsque nous avons passé par le deuil de mon frère, nous avons eu beaucoup de larmes. Et ce n'est pas fini. Et les gens qui pleuraient avec nous, c'est vrai, nous consolaient. Ils ne pouvaient rien dire, ils ne pouvaient rien faire pour nous, mais seulement pleurer avec nous. Et c'est de ces pleurs-là dont il est question. Il ne va pas délivrer Marie de son chagrin en touchant tout de suite, en disant « viens Marie, on... » Voilà, on va prier, on va mettre ça de côté. Ça nous donne l'autorisation, mes amis, de pleurer, d'avoir du chagrin, de vivre nos émotions, de vivre ce que nous avons à vivre. Et mes frères, c'est permis de pleurer. Jésus le fait. C'est permis. Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas faibles. Nous ne sommes pas faibles. Les larmes, c'est une force, bien au contraire. Et celui qui a accès aux larmes, c'est un don. Et finalement, Jésus va arriver au tombeau, devant Lazare. De nouveau, il frémit devant ce tombeau, devant cet ami très cher qu'il a perdu. Il frémit, il est bouleversé. Et Jésus va parler à ce moment-là. Il va demander aux gens, c'est marqué les gens présents, d'enlever cette grosse pierre qui se trouve devant le caveau, devant le tombeau. Et si vous êtes allé en Israël, on les voit encore, quelques-unes de ces tombes. Hein. On a le très beau jardin qu'on appelle le jardin de la résurrection, où il y a cette tombe et puis la pierre qui est roulée à côté. Et on dit que voilà, c'est le lieu où Jésus avait été enseveli, on ne sait pas hein, tout ça. Mais on se représente bien, ce n'est pas nos tombes sous terre où on met. Donc c'est vraiment une grotte, comme dit le texte. Et il y a cette grosse immense pierre ronde, en principe, qui couvre ce tombeau. Jésus demande aux gens de rouler cette pierre. Nous savons que cette pierre représente bien symboliquement tous nos empêchements, tout ce qui empêche la lumière de Dieu d'entrer. Et ça peut être tout un tas de choses, hein. Ce n'est pas seulement le péché, ça peut être le péché, c'est-à-dire la rupture de la relation, mais ça peut être des peurs, des fausses croyances, des choses, des blessures de longue date, des rejets d'enfance, etc., etc. Tout ce que nous avons tous pu vivre à un moment ou à un autre. Et le détail intéressant aussi, c'est de le savoir. Que parfois, c'est vrai, il y a des parties de nos vies qui sont encore cachées, qui sont encore secrètes, qui sont encore dans l'obscurité. Cette pierre peut être roulée, peut être enlevée. Parce qu'en enlevant la pierre, il y a la lumière qui arrive. Il ne fait plus nuit dedans. Il y a le rayon du soleil, le rayon de la lumière peut atteindre ces parties. Et ce n'est pas un détail de dire que c'est les gens qui enlèvent ça. Parce que nous avons besoin des uns et des autres. C'est une illusion de croire qu'on peut tout faire tout seul. Je suis désolée, moi j'aimerais bien, hein. Moi j'ai fait souvent beaucoup ça, plus jeune, en disant mais je me débrouillerai toute seule. Je ferai ça toute seule. Ça s'appelle la toute-puissance aux yeux de Dieu. Eh bien, Jésus nous le dit aujourd'hui de nouveau. C'est une illusion de penser qu'on peut s'en sortir tout seul. Nous avons besoin de ceux qui roulent cette pierre. Et ce sera le voisin peut-être qui me dira un petit truc comme ça au passage. Entendons-le. Ce n'est pas forcément seulement dans le cadre d'une église, d'une prédication, d'une relation d'aide. Ça oui, Dieu utilise même les moindres détails. Il peut me parler par la nature. Et puis par la personne qui est à côté de moi dans le bus. Moi, ça m'est arrivé régulièrement qu'une personne dans le bus qui ne me connaissait pas faisait quelque chose, puis tout d'un coup, elle me dit quelque chose. Puis je dis, tiens, pourquoi elle me dit ça? Alors des fois, ça peut nous piquer un peu. Dire, ah, de quoi elle se mêle? C'est notre réaction, hein. Je ne sais pas, c'est la mienne. Hein. Peut-être que je suis toute seule à faire ça. Puis après, en réfléchissant, si je me pose, je me dis, oh, mais oui, ah oui, c'est peut-être ça. Peut-être que la personne a vu quelque chose qui, sans s'en apercevoir, nous avons besoin des uns et des autres. Et puis il y a Marthe, de nouveau, notre Marthe, que lorsque cette pierre est en train d'être roulée, elle est préoccupée, Marthe, tout d'un coup, comme elle était préoccupée lorsqu'elle préparait le repas. Elle est préoccupée. Seigneur, tu sais, ça fait 4 jours, ça sent mauvais. Et c'est vrai, 4 jours dans un pays relativement chaud, on peut bien s'y imaginer. Mais Jésus, il n'a pas peur de nos mauvaises odeurs. Il est venu pour ça. Aucune mauvaise odeur, aussi nauséabonde soit-elle, ne l'arrêtera. Aucune. Et nous savons bien que parfois, certaines parties de nous ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ça qui va faire fuir Jésus, pas du tout. Au contraire, il va rester. Il va aller jusqu'au bout. Là, il parle à Lazare, finalement. Au mort, Lazare. On se rappelle qu'il est vraiment mort, hein. Et le texte précise qu'il va parler d'une voix forte. Ben oui, il faut qu'il l'entende. Et c'est une immense espérance pour moi d'entendre ça. Parce que je me dis, eh ben je ne serai jamais trop sourde, et jamais trop aveugle, et jamais trop morte pour ne pas entendre la voix de Dieu. Ça me rassure que même les morts entendent Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rassure. Il fera de tout. Il fera de tout pour que je puisse l'entendre, même quand tout est perdu aux yeux humains, que, vous savez, des fois, on est face à des situations ou à des gens qui ont dit, mais celui-là, mais il n'y a rien qui puisse le faire bouger. Eh bien, non, ce n'est pas ce que la Bible me dit. Même les morts entendent. C'est merveilleux. Donc, je me dis, mais je ne serai jamais trop sourde, jamais trop aveugle. Peut-être ça prendra un temps. Peut-être ça prendra même longtemps, mais on entendra. Lazare, tout mort qu'il est, et il était vraiment mort depuis 4 jours, hein, il va entendre Jésus l'appeler. Il va l'entendre. Aucune situation n'est sans issue, nous venons de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tombeau? Nous ne le savons pas. Jésus n'est pas entré dans le tombeau. On le remarque. De nouveau, il est tellement respectueux de notre liberté. C'était à Lazare de faire ce choix. Et seulement à Lazare. Aucun n'est entré dans ce tombeau. Lazare est face à un choix, comme nous sommes, nous, face à nos choix personnels et individuels, que personne ne peut faire à notre place, pas même Dieu. Pas même Dieu, il ne le fera pas à notre place. Il ne va pas forcer la porte, jamais. Et s'il est vrai qu'on dit que Dieu est tout-puissant, et nous le croyons, mais dans ce contexte-là de notre choix, il n'est pas puissant puisqu'il s'arrête à notre choix. Voyez ? Il va attendre le temps qu'il faut, mais le choix, la responsabilité du choix nous incombe. Et nous ne pouvons pas le faire pour quelqu'un d'autre non plus. Nous pouvons le faire pour nous. Le fait est que Lazare va sortir de ce tombeau. Et il va sortir complètement lié, on l'a vu, hein, avec des bandelettes et puis un linge sur la tête. Et ça, ça m'interpelle aussi parce que je me dis, il ne s'est pas demandé comment il allait faire. Oui, mais comment je vais faire? Je suis toute attachée. Comment je vais faire? Je ne vois rien du tout. Oh, pardon. Pourtant, jusqu'ici, je n'avais pas beaucoup bougé. Hein. Comment je vais faire? Vous savez, des fois, on perd l'occasion de notre choix en se posant ces questions-là. Ah, mais je voudrais bien, mais je ne peux pas. Oui, le Seigneur te demande un oui de choix. C'est un oui qui... ou un non. Tu peux dire non. Place-toi soit dans le oui, soit dans le non, mais sois clair. Et ensuite, comment cela va se faire, le Seigneur te le montrera. Il est sorti avec ce linge sur la tête, ça veut dire qu'il ne voyait rien. Parfois, lorsqu'on dit ce oui au Seigneur, on ne voit rien. On ne sait pas quel est le prochain pas, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Je ne sais pas si vous, vous connaissez tout comme ça, mais moi pas. Mais on sort, on se met debout. Et à partir de là, le Seigneur dira encore aux gens, de nouveau, nous rappelons une fois de plus combien nous avons besoin des uns et des autres. Il dira encore une fois, déliez-le, enlevez-lui ses bandelettes, ce linge, etc. Enlevez-lui tout ça. Et les gens vont le faire. Ils le font toujours avec bienveillance. Et finalement, Jésus dira, étonnamment peut-être, laissez-le aller. Laissez-le aller. Aller où? Son chemin. Lazare a un chemin à faire. Lazare a son chemin comme les uns et les autres. Nous avons notre chemin. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, Lazare, parce que c'est ouvert. Sinon, ça aurait donné une formule. Voilà, après on fait A, on fait ça, B, on fait ça. Non, les chemins sont aussi différents et variés que nous sommes d'individus. C'est notre chemin, c'est le chemin de Lazare. Et là aussi, je me suis dit, mais quel amour de Jésus! Cet amour agapé qui n'attend rien en retour. Il aurait pu dire à Lazare, ben maintenant tu me suis. Il ne l'a pas fait. Et puis moi, je me dis, dans mon contexte actuel, je me dis, oh, mais moi je l'aurais pris comme une carte marketing. Je ne sais pas vous, mais vous voyez, il est ressuscité. Un miracle, quelque chose. Jésus ne fait même pas ça. Bien sûr que la nouvelle va se répandre. Mais Jésus est intéressé au chemin que Lazare va faire, comme il est intéressé à notre chemin. Et il a confiance. Il a confiance en Lazare, comme il a confiance en moi, en toi, en nous, en chacun. Il a vraiment, il a placé sa confiance en nous, comme nous plaçons en retour notre confiance, qui veut dire foi, hein, en lui. Lazare signifie Dieu a secouru. Lazare a été secouru. Et dans nos parties de Lazare, nous sommes secourus. Que nous nous sentions Lazare, Marie ou Marthe, Dieu est notre secours. Et Béthanie signifie la maison du deuil ou de l'affligé. Au sein de l'épreuve, au sein de la souffrance, de la douleur, au sein de mes souffrances, Dieu est mon secours. Ce n'est pas la parole d'un homme. Elle fait ce qu'elle dit. Elle œuvre. Et nous l'avons entendu dans ce récit, aujourd'hui, qu'il y a un chemin de mort, mais qu'il y a un chemin de retour vers la vie. Et c'est une bonne nouvelle pour tous. Pour tous. Nous pouvons toujours venir à la vie par notre oui. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons pas non plus changer notre histoire. Mais nous pouvons faire que les conséquences aujourd'hui soient différentes. Nous pouvons faire un chemin vers la vie. Et ceci autant de fois qu'il le faut, dans tous les domaines. En disant oui, et la vie prendra de plus en plus son espace, sa place dans mon cœur, dans mes chemins. Même les plus reculés, les plus obscurs, les plus blessés, cette pierre, toutes ces pierres peuvent être roulées pour laisser place à cette lumière. Que le Seigneur puisse véritablement entendre maintenant ce que vous lui apportez et que sa lumière puisse briller dans nos ténèbres à chacun. Amen.